présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Elle ferme la porte. Elle lui dit, tu vois, tout rentre dans l'ordre. L'embrasse. Il dit, tu seras toujours mon bébé. Il lui dit, je serai toujours ton bébé. Il lui fait, oui, sauf lorsque tu fais la mauvaise tête. Il lui dit, je te promets que je serai sage. Allons au salon. Elle le mène au salon. Ils s'assoient dans des fauteuils, l'un en face de l'autre. Elle lui fait, Je suis sûr que ça t'a fait beaucoup de peine de pouvoir venir ici. Mais tu vois, tu es de retour. Je vais te faire un cadeau. Je vais te donner ma clé. Comme ça, tu pourras faire la grasse matinée lorsque tu coucheras chez moi. Ça te va ? Il lui fait oui, beaucoup. Elle donne la clé de l'appartement, mais en lui disant « Tu seras sage, hein, et tu t'en serviras que lorsque je te le dirai. Je ne veux pas que tu viennes chez moi lorsque je n'y suis pas. Tu as compris ? Oui ?» Puis passe la soirée ensemble. Après dîner, ils ont quitté la musique. Lui a voulu danser comme un fou, comme il le fait d'habitude. Lorsqu'il danse, en chemise blanche et pantalon pieds nus, on dirait qu'il fait beaucoup plus jeune que d'habitude. Puis ils sont allés se coucher, se sont retrouvés heureux et satisfaits. Le lendemain matin, c'est elle qui se réveille la première. Elle le regarde endormi, l'air innocent, le pouce dans la bouche, les cheveux ébouriffés, couchés sur le dos, la tête sur le côté, il y a les draps qui cachent jusqu'à la taille. Il donne un baiser sur la tête, un autre sur la joue.
Quelle heure ? Je pars, tu te lèves ?
Il lui fait la grimace et lui dit « Bien, je te laisse. » Elle se lève, nue et belle. Le regarde encore une fois, lui donne une tape sur la fesse, puis elle sort de la pièce. François dort encore. Dans son sommeil, il entend le bruit qu'elle fait pour se préparer. La porte s'ouvre et s'habille en tailleur rouge, va vers le lit, l'embrasse sur la joue et lui dit « Je m'en vais. N'oublie pas c'est de fermer la porte. Tu feras ton petit déjeuner toi-même. J'ai pas le temps de le faire. Je te téléphone pour prendre un autre rendez-vous. » Et soupire. Tu ne m'embrasses pas ? Il se soulève, se pend à son cou et l'embrasse. Elle lui demande « Tu es heureux ?» Il fait « Oui » et ferme les yeux. « Oui. » Elle lui dit « Allez, j'y vais. » Et elle le quitte. On entend qu'elle s'éloigne. Il se recouche sur le dos. Les draps ne recouvrent que le bas de ses jambes. La pièce baigne de soleil. Il n'a pas envie de se lever, il est bien. Une demi-heure plus tard, il tend le bras sur son lever pour appuyer sur le bouton de la mise en route de la radio. Et la musique envahit la pièce. Il s'étire. Tout doucement, se lève pour aller à la salle de bain. Petit à petit, la radio le réveille. Ses mouvements se mettent en cadence. Il prend sa douche au rythme de la musique. En se trémoussant au rythme de la musique. Puis s'essuie en rythme. C'est un vrai élastique. Retourne à la chambre pour s'habiller tout en dansant. Jongle avec ses chaussettes, se tortille, puis il va à la cuisine préparer son petit déjeuner en dansant. Tape avec l'écuyer sur la table en dansant. Après avoir pris son petit déjeuner, il range la cuisine, toujours avec le rythme de la musique. Il range la cuisine, toujours avec le rythme de la musique. Après, il va faire son lit. Toujours avec le rythme de la musique. Avant de partir, il lui prépare son couvert. Met sur la table avec un bouquet de fleurs. Puis, il lui écrit un petit mot, un petit billet tendre avec un petit dessin dessus. Un dessin d'un petit bébé. Sort de l'appartement. ça amuse Judith. Elle l'invite de plus en plus souvent. Et c'est toujours la même chose. Il danse, il rit. Le matin, elle le laisse au lit. Et lorsqu'il est seul, il fait toujours le fou. Les jours passent. Il n'y a pas de nouvelles de Serge. Et se dit que Judith en a peut-être. Mais il n'ose pas lui en demander. Alors, un soir, tout en dînant, il lui demande « Serge, n'a pas de mère ?» Elle lui dit « Si, mais elle est morte d'un accident d'auto. » Lui a assisté à l'accident. Il était dans la voiture avec elle. Ce dieu est terrible pour lui. Il a fait des cauchemars pendant des années. Il revoyait le drame. François lui dit, le pauvre gosse. Et son père. Son père ne s'est pas remarié. Il est resté fidèle à sa femme. Enfin, jusqu'à maintenant. François lui dit, te fais la cour. Et lui fait, sois pas désagréable. Tu es avec moi, non? Lui dit, oui. Et je te trouve très belle. Il se soulève, lui donne un baiser sur la joue et lui dit « Donne-moi la saucisse, là. Fais-la-moi manger. » Elle prend une saucisse avec sa fourchette et la lui tend, la prend dans la bouche, il la suce. Elle lui dit en riant « T'es dégoûtant !» Il lui dit « Ça manque de raideur. » Ne dis pas de bêtises et mange-la. Et il la mord. François la fait toujours rire. Et vit comme ça au crochet de Judith. Et de rencontres rapides. Il demande toujours d'aller avec elle à une soirée. Elle lui dit, c'est très ennuyeux, si tu savais. Il lui dit, mais je le sais, j'ai déjà été plusieurs fois. Alors, elle lui fait, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il lui dit, comme tout le monde, rien de plus. Tu as honte de te montrer avec moi? Elle lui fait, non. Eh bien, elle lui dit, bon, d'accord. Mais tu le regretteras. Justement, je suis invité à une de ces soirées chez Franc Blanc. Tu viendras avec moi. Il lui fait, chic. L'accompagne à la soirée des Francs Blancs qu'ils organisent dans leur hôtel avenue Velasquez. Vous connaissez déjà l'hôtel et ses environs parce que vous y êtes allé peut-être des centaines de fois. Grâce à l'élu, la spirale de verre, la plante du diable. L'histoire que vous lisez, écoutez ou même regardez se passe à la même époque que ces histoires. Lorsqu'ils y arrivent, il y a du monde. Les voitures se garent près de l'hôtel.
Les gens sortent en tenue de soirée, les femmes en robe du soir multicolore, les hommes en smoking noir. L'hôtel est tout illuminé. Les portes sont grandes ouvertes, mais un service d'ordre surveille et regarde les invitations pour les entrées et aussi les sorties. Lorsqu'ils arrivent devant l'entrée de l'hôtel, un garde grand, blond, dans les 30 ans, leur demande « Vous avez votre carte ?» Et une montre la sienne et dit « Monsieur est avec moi. » Le garde les fait passer entre deux bornes pour voir s'ils n'ont pas d'armes. Et ils entrent. François regarde tout ça avec de grands yeux. La foule, la musique, la lumière. Elle lui dit, tu es content? Lui répond, oui. Très classe. Au premier, en haut, sur le palier, avant l'entrée des salons en enfilade, se trouve monsieur et madame Franblanc pour saluer les invités. Il leur dit, bonjour Judith, merci d'être venue. Elle lui dit, je suis heureuse d'être là. Ah, je vous présente un jeune homme de ma connaissance, François Ducourt. François lui dit, sans le voir, merci d'être venu. Et Judith et François s'éloignent. François est déçu, mais il se dit qu'il pourra peut-être lui parler plus tard. Arrivé au salon, dans la foule, ils voient venir à eux la lapin. Elle dit, bonjour Judith. Oh, bonjour mademoiselle Lapin. Alors on s'amuse? Elle lui fait, oui, mais j'ai perdu le petit Sébastien. Il devait me faire danser. Elle regarde bien François et dit, qui est ce jeune homme? Judith lui répond, François, mon ami, il est vraiment beau garçon. Et Judith laisse François s'éloigner. Mademoiselle Lapin se dit, cette Judith, elle en a de la chance. La femme à tête de cheval s'approche d'elle. Elle est toujours habillée avec sa robe verte blanche, ses boucles d'oreilles qui pendent. Elle dit à la lapin, vous avez vu celui-là, le garçon qui est avec la Judith? La lapin dit, vous aussi, vous l'avez remarqué. Quel beau spécimen! C'est Judith, il lui faut tous. Venez, nous allons au buffet. Je dois prendre des gâteaux pour mon kiki. J'ai amené un sac en plastique. Mais j'ai pris un sac tati. Ça fait mieux que Carrefour. La femme à tête de cheval dit, peut-être que je retrouverai Jacques. Je l'ai encore perdu. Il est lunatique en ce moment. Ça doit être sa monopause. La lapin demande, c'est un travelot, Jacques? Non, mais les hommes aussi ont des retours d'âge, comme nous. Ah, mais quel âge il a? Il est encore très jeune. La preuve, il vit chez sa mère. François amène Judith danser et lui dit, tu vois, c'est pas grand chose. Et lui dit, mais nous sommes tout de même chez les Franblanc. Elle voit que ça lui fait plaisir et qu'il est très heureux. Il danse, encore deux danses. Puis Judith est obligée de le quitter. Il y a le père de Serge, monsieur Dutour, qui lui fait des signes. Elle dit à François, Je dois y aller. Et elle le laisse. François se sent tout triste. Il laisse les mains dans les poches, le regard dans le vague. Vient à lui un jeune homme, grand, mince, très élégant, cheveux châtains. Il est beau, mais le regard donne froid dans le dos. Il lui dit « Bonsoir, bonsoir ». Le jeune homme lui dit « Il semble qu'on se connaît ». François lui dit « Je ne vois pas ». Et tu dis « Je m'appelle Gilles Traine, et vous ?»« Moi, c'est François Ducourt. » Gilles lui dit « Je vois. Je vous ai vu tout à l'heure avec la belle Judith. Félicitations, quelle femme !»« Merci, et vous ?» Gilles lui dit « Moi, je suis venu avec un ami Frédéric Borch. » Le jeune Borch, hélas, il est près de son frère, un vrai Borgia. Mais on lui fera sa peau à celui-là. C'est un primaire. François lui demande, primaire? Oui, un primaire. Comme les autres. Nous, nous sommes, enfin, moi et Frédéric, je veux dire, des surhommes, des êtres à part. Il regarde bien François et lui dit, vous, vous devez en être un. Comment? Eh bien, il y a en vous la perfection de votre physique, votre petit nez, les yeux bleus, très fins, votre petite main délicate d'aristocrate, petits pieds, et votre façon de vous tenir. Je suis sûr que vous en êtes un. Mais vous ne devez pas le savoir. François lui dit gêné, merci. Je lui dis, il faut prendre les autres pour des riens. Tenez les filles, eh bien, vous les prenez et vous les jetez comme des Kleenex. La loi, la morale, ce n'est pas pour nous. Nous sommes en dehors des autres. Nous sommes comme des dieux. François se dit que c'est peut-être pour ça qu'il lui arrive de faire des choses peu morales. Donc il a raison. Arrive vers eux le dénommé Frédéric Borch. Il demande, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, rien, je m'ennuie. J'ai rencontré un comme nous. Frédéric regarde, François lui dit, tu en es sûr? Oui, il suffit de le regarder. Il regarde François et dit, tu veux venir avec nous faire une virée sympa entre gens comme nous? François lui dit, peut-être plus tard. Je vois Judith qui fait signe. Elle s'éloigne. Va vers Judith. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Rien, je discutais avec des jeunes. Elle lui dit, il y a le jeune homme là, près du buffet. C'est Julien Sèvre. Un très gentil garçon. Il est l'ami du fils Tremblant. Va lui parler. Il est très bien ce garçon. Bien, mais c'est lequel? Elle lui dit, celui-là. Elle lui montre un jeune homme grand, mince, cheveux châtains qui ondulent. Il a le visage doux et clair, un côté angélo avec de beaux yeux dorés, fait très distingué. François va le voir, il se demande ce qu'il va lui dire. Près de lui, il lui fait, bonsoir. Julien lui fait, bonsoir. François lui dit, vous êtes de la famille? Non, je suis un ami, Julien Sèvre. Moi, c'est François Ducourt. Julien lui fait, enchanté. François lui dit, vous ennuyez pas trop? Julien lui dit, non. On voit une jeune fille dans la foule. Elle crie, Julien! Il crie Nathalie et il laisse François. Un jeune homme le cogne. Je retourne et voit un jeune homme grand, mince, blond. Il lui dit, tu vois, mais je ne suis pas très bien dans ces choses. François lui dit, ça n'a pas d'importance. Le jeune homme lui dit,
Je m'appelle Alexis. Et vous?
Oh, François.
Vous êtes de la famille?
Non, pas du tout.
Je suis même pas de leur monde.
Je suis étudiant. Je veux faire plus tard des recherches sur la biotechnique.
Et vous?
François lui dit.
Moi, rien du tout.
Je ne fais rien.
Je vis de l'argent que donne une fille.
Et si lui dit,
j'avais de la chance.
Moi, ça va être le contraire.
Je suis issu d'une famille très pauvre,
très peu fortunée,
même du peuple,
de Montparnasse.
Et vous?
Moi, de la place de l'Étoile.
François se sent gêné, parce qu'il a l'impression que le jeune,
comme il est d'un milieu modeste, peut le démasquer.
Il lui dit, bon et bien, à bientôt.
Et il lui dit,
sûrement, j'ai vu que vous parliez à ces jeunes-là.
Il lui montre Gilles et Frédéric.
François lui dit, oui, un peu étrange, mais gentil.
Et s'il lui dit, défiez-vous
d'eux. Ils ont des idées bizarres,
ils font de drôles de choses.
Les jeunes qu'ils ont fréquentés l'ont regretté.
Il paraît qu'à les vieilles filles, ils sont très durs.
François lui dit, ça leur passera.
Il se dit qu'il doit être jaloux,
parce qu'ils sont d'un autre milieu que lui.
Et François s'éloigne.
Judith est toujours en train de danser et rire.
Lui s'ennuie.
Il voit une petite blonde et décide de l'inviter à danser.
Elle porte une robe bleue longue.
Elle accepte et la fait danser de façon endiablée.
Puis, la soirée se continue.
Il réussit à danser avec quelques jeunes filles et oublie la déception de ne pas être remarqué par les francs blancs.
Il les oublie.
Vers les 3h du matin, les gens commencent à partir.
Judith continue à danser avec quelques cordes du siège.
Il voit arriver à lui Gilles et Frédéric.
Gilles lui dit, tu viens, on va faire finir la soirée ailleurs.
François lui demande où.
Il lui dit, ce sera une surprise.
François se dit, pourquoi pas.
Il leur dit, oui, je veux bien. Mais avant, j'aimerais être sûr, c'est que vous me rameniez à Paris.
Je lui dis, d'accord,
viens. J'ai prévenu Judith que je vais avec vous.
Parce que je suis venu avec elle.
Il va vers Judith.
Il lui dit, je m'en vais.
Vous n'entendez pas?
Il lui dit, non, j'ai pas fini de parler avec mes collègues.
On se voit demain soir?
Oui. Elle embrasse et lui dit à l'oreille,
petit bébé.
Et il va vers Gilles et François.
Ils sortent de l'hôtel.
Gilles dit, on prend ma voiture, venez.
Il les mène à une belle voiture de tourisme,
noire de toute beauté.
Frédéric demande,
tu l'as eu où celle-là?
Je lui dis, c'est un mec qui est avec ma mère.
François lui dit, elle n'est pas à toi?
Non, mais ça n'a pas l'importance. Il prend ma mère,
moi je vais en prendre la voiture,
et puis c'est un gars cool.
Allez, entrons.
Et ils entrent tous les trois devant.
La voiture est assez large.
C'est le grand luxe.
Siège en cuir plein blanc.
Tableau de bord recouvert d'écailles.
C'est Gilles qui se met au volant.
Frédéric et s'est mis à côté de lui.
Gilles met la voiture en route.
redemande, nous allons où? Je lui dis, fais une petite virée. Et il roule dans les rues de Paris, qui sont presque désertes. Il fait encore nuit, mais plutôt entre chiens et loups. On dit ça parce que le matin va bientôt venir. Au bout d'un moment, Gilles dit, on s'ennuie un peu de conduire comme ça. Il sort de sa poche un foulard noir de soie et l'arche survolant pour le mettre autour de la tête pour cacher ses yeux. Tout à coup, François le voit et voit qu'il se bouche les yeux. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai lui dit, rien, tu vas voir, c'est très simple. Il reprend le volant. François pense qu'il y voit. J'ai lui dit, je vais te montrer que Frédéric et moi, on est tellement unis qu'on n'en fait qu'une seule et même personne. Frédéric va être mes yeux. Il va me dire ce que je dois faire et moi, je vais être tes doigts. Je vais l'obéir au doigt et à l'œil, comme on dit. Pendant qu'il dit ça, François regarde la route. Heureusement que c'est en ligne droite. Il lui dit, vous êtes complètement fous, tous les deux. Je lui dis, tu as peur? François lui dit, je ne sais pas. Je lui dis, tu dois avoir confiance avec des gens qui sont comme toi. Et Gilles accélère. Et Gilles accélère. Visage. François se sent perdu. Il crie, virage. Qui arrive? Fais attention. Gilles lui demande, quoi? Le virage? Où? Comment? Je ne vois rien. François panique. Frédéric et Gilles rient. Ça énerve François. Arrêtez! Frédéric dit. Tu tournes doucement à droite. Un petit virage qui donne une petite route. Là, là, c'est bon. François suit ses indications et fait le virage. Gilles roule de plus en plus vite. Il freine de plus en plus sec. Lorsque Frédéric lui dit, dépasse les voitures et tout. Tourne, freine. Ça va dans tous les sens. François dit, allez, là, non, camion, là, juste, attention, la voiture, arrêtez, non, ça suffit. Je lui dis, arrête, tu m'énerves, tu m'empêches d'entendre ce que dit Frédéric. Tu te calmes. Ça sert à rien de paniquer, de crier. Attention, ton camion va freiner. La voiture à gauche, à droite, le virage, il faut dire à quel endroit le virage, etc. Frédéric donne en même temps des indications, calmement à Gilles. Ils sont sortis de Paris. Comment, on ne sait pas. François ne sait plus. Une fois sur le périphérique, une droite, la route presque vide, à part des camions. Frédéric qui file, c'est des camions qui vont pour le chantier. Gilles s'en donne encore joie. Il fonce de plus en plus vite et Frédéric rit avec lui. François en a marre. Il se dit que ce sont deux fous enragés. Il fait presque jour, Gilles leur dit. On se trouve un coin pour se reposer un peu. François est tout blanc, il a envie de vomir. Il dit.
Moi, je veux bien, ouf.
Gilles rit et lui dit. Ce n'est rien, tu vois, moi je suis cool. Parce que c'est pas moi qui ai la responsabilité. Mais Frédéric, et Frédéric lui a confiance en moi. Alors, lui aussi est comme moi. Il n'y a que toi qui panique, qui n'a pas confiance en moi. J'ai dit à Frédéric. Faut sortir du périph et trouver une route. Il y a quelque chose pour s'isoler. Bien. Et Frédéric le guide. François se détend, mais il a toujours envie de vomir. Il quitte le périph, sans ennui, il n'y a presque pas de circulation. Et oui, Gilles et Frédéric, que vous savez depuis longtemps, depuis la spirale de verre et la planche du diable, connaissent tous les deux leur numéro. Et ils conduisent les yeux fermés. Ils quittent la grande route. Ils prennent une petite route de campagne au milieu de champs et des bois. François leur demande, on va rouler encore longtemps? Je lui dis, ne fais pas de soucis, on cherche quelque chose. Frédéric lui dit, tiens, il y a une maison là, à droite. François voit une villa toute blanche. Entouré d'un petit muret au milieu des champs, Frédéric dit.
Frédéric lui dit, attends, là, à droite, tu vas freiner tout doucement.
Là. Maintenant, tu vas t'arrêter. Voilà.
La voiture s'est arrêtée au bord de la route, près d'un arbre, à côté de la propriété. Gilles enlève son bandeau, qu'il remet dans sa poche de sa veste, et regarde Lily.
Voilà, c'est bien,
c'est même très bien. Allez, on sort. Ils sortent de voiture. Vite, François s'éloigne pour vomir. Honteux, il revient vers ses camarades qui lui passent un mouchoir pour qu'il le mette à sa bouche. Il leur dit, je m'excuse. Je lui dis, faut jamais s'excuser, mais c'est normal que tu sois comme ça. C'est la première fois que tu viens avec nous. François demande, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis.
Ils ont rentré dans cette villa. Vous connaissez ses occupants?
Non, mais ça n'a pas d'importance. On entre, on se détend et on s'en va. Et dès qu'il dit,
il n'y a pas de danger.
Je lui demande, tu as peur?
François dit, je ne sais pas.
Allez, viens avec nous, tu verras. François se dit qu'il ne peut pas faire autrement. Ils vont vers le mur de la propriété, qui est très haut, à peu près 1m50. J'ai dit, on saute. Il saute et s'agrippe au haut du mur. Et avec ses bras, il s'élance et saute de l'autre côté. Il leur crie, allez, faites comme moi.
Comme lui.
François se demande où ça va déboucher cette histoire. Ils se sont trouvés dans un jardin, près de la villa. Gilles dit, allez, on y va. François lui dit, et s'il y a quelqu'un? Je lui dis, on ne risque rien, j'ai ce qu'il faut.
et sort de sa poche un couteau à cran d'arrêt, en disant « Ils seront défavorisés parce que ils seront surpris et pas nous. Allez !» Et il fume Gilles. François se dit « De toute façon, qu'il en a vu d'autres, et puis, ça va être peut-être rigolo. » Arrivé à la maison, Gilles lui dit « La porte doit être fermée. Il faut chercher une fenêtre et la briser. » Alors, ils font le tour de la maison, qui semble être inoccupée. Voyez, derrière la maison, une fenêtre où les volets n'ont pas été fermés. Elle est au rez-de-chaussée. J'y choisis une pierre et tape sur la vitre. Dans le silence, ça fait un bruit terrible. La vitre est brisée. Gilles passe la main et ouvre la fenêtre. Il regarde et dit, c'est une cuisine. Ils entrent dans la maison. Entrez. Les autres en font autant. Les autres en font autant. Gilles dit, on va voir s'il y a quelque chose à manger. Il ouvre le réfrigérateur. Des yaourts, du jus de fruits, du poulet, du porté. Bon. Il dit, qu'est-ce que j'ai faim, moi? Et il aide Gilles à mettre les 8 toiles sur la table. François dit, moi aussi, j'ai faim maintenant. L'émotion donne faim. Et s'assoit à table et se serve. Gilles, après avoir coupé le pâté, leur a donné, il mange comme ça. À la main comme ça. François dit, il n'y a sûrement personne parce qu'avec tout le bruit qu'on a fait, s'il y avait eu des gens, j'ai lui dit, oui, bien sûr. Après avoir mangé et bu, j'ai dit, bon, on va visiter la maison. Et ils sortent de la cuisine. Pas de bruit. Ils montent à l'étage. Il y a un couloir, ouvre une porte, séjour modèle, avec une cheminée, les volets sont fermés, les meubles sont Ikea. Gilles dit, c'est des poules ces gens. Il ouvre un buffet en bois. C'est un bar. Il y a une bouteille avec du whisky, Frédéric dit. C'est bien. Gilles lance la bouteille. Frédéric la boit au goulot. Puis fait, pouf, c'est de la merde. Et il balance la bouteille sur le canapé. Elle s'est brisée et le liquide s'est déversé sur le tissu. Gilles rit. Puis, prend une bouteille dans le bar et la jette à terre. Il en prend plus dehors. Le liquide dégouline de partout. Il jette à terre toutes les bouteilles.
vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.